L'évangile de Marc, chapitre 8, versets 22 à 25. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il mit de la salive sur ses yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et il vit tout distinctement. Amen. Il vit tout distinctement. Voilà le sujet de notre prédication ce matin. Le Seigneur voudrait que nous voyions tout distinctement. Il est venu pour nous guérir, il est venu pour nous guérir de l'extérieur, de l'intérieur. Il est venu pour nous toucher les yeux, pour faire tomber de nos yeux ces écailles qui nous empêchaient de le voir, qui nous empêchaient de connaître sa volonté, qui nous empêchaient de voir le bien du mal, qui nous éclairait. Et nous, aujourd'hui, nous pouvons voir les choses telles qu'elles sont. Amen. Discerner les temps, discerner les circonstances, discerner les choses. Et ça, ça vient de Dieu qui nous a rendu la vue. Amen. Mais parfois, comme dans cette histoire, dans ce passage, nous pouvons être comme cet homme, avoir eu un attouchement divin et voir, mais pas tout distinctement. Et nous avons besoin de la parole de Dieu, nous avons besoin de son esprit pour voir tout. Amen. Pour aller plus loin dans le discernement des choses. Parce qu'il y a là un enjeu très fort spirituellement. Vous savez que nous sommes en guerre. Voilà, petit à petit, je souris parce que je vois les visages. Tout à l'heure, je ne les voyais pas, des uns, des autres. Et je reconnais les visages, je distingue les visages. Ça n'a rien à voir avec la prédication, mais voilà, j'arrive à voir les visages. Et ça réjouit mon cœur de voir certaines personnes qui ne sont pas là d'habitude, par exemple, et d'autres qui sont là au milieu de nous. Je ferme la parenthèse. Nous sommes en guerre. Guerre extérieure et guerre intérieure. La Bible parle de guerre de l'âme. Et en regardant l'actualité, nous voyons que dans le monde entier, nous sommes en guerre. Mais il y a une guerre spirituelle également. Et l'ennemi de notre âme, une de ses tactiques, c'est de nous endormir. Et quand on est endormi, on a les yeux fermés. Pour mettre hors de combat quelqu'un, à l'époque, le meilleur moyen, c'était de lui crever les yeux. Quand Nakash, l'ammonite, vient assiéger Jabès en Galaad, dans le chapitre 11, du premier livre de Samuel. Les habitants de Jabès veulent traiter alliance avec leur ennemi. Vous connaissez cette histoire, peut-être ? Et Nakash, l'ammonite, va leur proposer quelque chose. Il va leur dire, « Eh bien, je traite alliance avec vous si je vous crève à tous l'œil droit. » Il savait ce qu'il faisait, puisque en crevant l'œil droit de ses ennemis, il savait qu'il les mettait hors de combat. À l'époque et encore aujourd'hui, on ne se bat plus avec les mêmes armes, mais on tient généralement le bouclier de la main gauche et l'épée de la main droite. Sauf Jérémy Michel qui est gaucher. Mais sinon, normalement, on prend tous le bouclier de la main gauche et l'épée de la main droite. Et lorsque l'on prend le bouclier de la main gauche, on se cache sous ce bouclier. Et le premier œil qu'on fait sortir, c'est lequel ? C'est l'œil droit. Et en ayant l'œil droit crevé, alors on est comme aveugle. Parce qu'on ne peut plus se protéger comme avant. Et on ne peut plus agir son épée comme on le veut. L'ennemi le sait bien, s'il crève nos yeux, il sait... que nous serons inoffensifs. Et il sait qu'il aura devant lui une armée anéantie qui ne saura pas distinguer sa droite de la gauche, qui ne saura pas se servir des armes que Dieu lui a données. Et d'une manière spirituelle, Satan veut nous rendre aveugles pour nous mettre hors de combat, incapables de manier les armes, incapables de voir l'ennemi, incapables de mesurer le danger, incapables d'agir, incapables également de voir le soutien et la force et l'armée qui est tout autour de nous. Comment ne pas parler dans un premier temps de Samson ? Dans nos vies, parfois, nous avons comme des aveuglements spirituels. Et c'est normal parce que Satan cherche à tout faire pour nous rendre aveugles, pour que nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont. Comment ne pas parler de Samson, donc ? Et qu'est-ce qu'on va faire avec Samson lorsqu'on va réussir à le neutraliser et qu'on va lui enlever sa force en lui coupant les cheveux ? On va lui crever. Que si jamais sa force revient, il sera quand même inoffensif. Ils n'avaient pas prévu qu'il était entre deux piliers à la fin et qu'il aurait une dernière victoire extraordinaire. Mais l'ennemi cherche à nous crever les yeux pour que nous soyons inoffensifs. On dit souvent que l'amour rend aveugle. Il y en a encore qui sont aveugles au milieu de nous. On dit aussi que le mariage rend. Pour revenir sérieusement, il semble que Samson, que pour Samson, ses yeux spirituels se soient crevés avant ses yeux physiques. Il a complètement baissé la garde avec Delila. Il lui a ouvert tout son cœur. Aveuglé par ses sentiments, il ne se rendait pas compte qu'il se confiait à une ennemie. Elle, elle était là pour le faire tomber. Mais lui, aveuglé par l'amour, il lui a ouvert son cœur et lui a révélé son secret de sa force. Et ça peut aller très loin d'être aveuglé par l'amour, par ses sentiments. On peut faire des choses abominables avec son corps, avec sa vie, prendre des mauvaises décisions. Je suis toujours étonné et j'étais vraiment surpris de voir par rapport à l'actualité, permettez-moi d'en parler un instant, de ce drame qu'il y a eu en France, de cette personne qui a été décapitée. Et je ne l'ai pas vu personnellement, mais on m'a rapporté l'interview de sa femme qui, soi-disant, n'avait rien vu. Alors, je ne veux pas jeter quoi que ce soit sur cette dame, peut-être est-elle sincère, mais quand même, quand on reste 12 heures par jour, toute une vie à côté de quelqu'un, comment ne pas s'apercevoir qu'il y a quelque chose de bizarre ? Il y a des sentiments, une haine, des réflexions. Comment on peut être aveuglé comme cela ? Ça peut aller très loin d'être aveuglé par ses sentiments. Quand l'amour aveugle ne voit plus le mal. Et quand l'amour est aveugle, on ne voit plus le mal qui se passe dans nos maisons, au milieu de nous. On accepte des choses sans broncher, parce qu'on aime. Tout le contraire de l'amour clairvoyant, l'amour que nous voyons dans 1 Corinthiens 13. On peut vraiment être aveuglé par l'amour et prendre des mauvaises décisions. Il faut faire attention à cela. Aveuglé également par sa propre famille. Combien on manque parfois de discernement lorsqu'il s'agit des siens. On est tous comme ça, hein ? Non ? C'est incroyable comme on peut avoir deux poids deux mesures quand il s'agit de ses enfants. Non ? Non. Parce que c'est mon fils, parce que c'est ma fille, finalement, c'est pas si grave. Non, c'est rien du tout. Il avait du shit sur lui ? Ah ouais, mais c'est pas sa faute, c'est ses amis là qui sont là avec lui. Il s'est fait virer de l'école. Ah ouais, mais l'ami qui est avec lui tout le temps là, il parle tout le temps avec lui et c'est à cause de lui, hein. Mais mon fils, non. Alors qu'avec un étranger, avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, on va être plus intransigeant et strict parfois. Mais avec quelqu'un que j'aime, j'ai plutôt tendance à être indulgent. J'ai plutôt tendance à fermer un peu les yeux. Et je crois vraiment que ce n'est pas du tout un comportement spirituel. Dans une église, ça va, il n'y a pas de pasteur au milieu de nous. Dans une église, les premiers à se rendre aveugles avec leurs enfants, ce sont les pasteurs. Ou les anciens. Ceux qui donnent les principes, ceux qui donnent les règles. Mais quand il s'agit de ses enfants ou de sa femme, des fois, il y a certaines choses qui sautent. On n'a pas vu. On n'avait pas vu ça comme ça. Et dans la famille, c'est les parents. C'est les responsables. Les responsables spirituels. Il y a un personnage dans la parole de Dieu qui nous montre bien cela, c'est Élie le sacrificateur, l'homme de Dieu qui était devenu trop indulgent avec ses fils, Ophni et Phiné. Et le texte nous montre que Dieu a horreur de ces choses-là. 1 Samuel chapitre 3 verset 13. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est à cause de cette priorité que Élie a déplacée. Au lieu de mettre Dieu en priorité, il a mis ses enfants en priorité. Et les offrandes et les sacrifices passaient d'abord pour ses fils plutôt que pour Dieu et pour que l'œuvre de Dieu. D'une manière simple, on pourrait dire, mais à ma vie, qu'est-ce que ça pourrait représenter? Je me suis dit, mais voilà, on est dans la période des sols, par exemple. Ma fille, mon fils a besoin de nouvelles chaussures. Et j'avais préparé cette somme pour Dieu. Ses enfants, c'est pire, mépriser le Dieu et mépriser le service de Dieu. Et en faisant cela, il méprisait la nature même de Dieu. Et Élie faisait comme s'il ne le voyait pas. Pourtant, Dieu l'avait averti. Des fois, on fait comme si on ne voit pas. Des fois, on fait comme si on n'entend pas. Et parfois même, nos enfants pourraient dire des choses, pourraient mépriser Dieu, pourraient mépriser l'Église, pourraient faire toutes sortes de choses dans ce sens, et nous, on ferait comme si on ne le voyait pas. Un homme de Dieu va venir vers Élie. Ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte, etc. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? D'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin que vous engraissez des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Un peu plus loin, il est dit, je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme, mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Voilà ce qui arrive lorsque l'on déplace les priorités. On a la vue qui baisse. Et Élie va avoir cette vue qui baisse et Dieu va dire d'une manière prophétique « Afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. » Notre âme est triste lorsqu'on ne peut plus rien faire, lorsqu'on ne voit plus. Le résultat, c'est la mort de ses fils. Et je crois que si on baisse la garde, le résultat, ce sera la mort spirituelle de nos enfants. Je bénis Dieu d'avoir eu une maman qui, malgré toute ma rébellion, malgré mon éloignement de Dieu, n'a jamais cessé de me dire la vérité. Vous savez, au bout d'un moment, avec des adolescents, avec des jeunes, on baisse les bras, on baisse la garde, on fait comme si on ne voyait plus, on en a marre. Mais il faut toujours continuer parce que ça agit. Ça agit dans le cœur, ça agit dans la tête. Quel contraste avec l'amour du Père qui a envoyé son Fils pour mourir à la croix pour nous sauver. Quel contraste avec cette phrase de Josué qui dira « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Moi et mes enfants. Je lisais dernièrement un article où il était question que plusieurs fois dans la Bible, on voit que c'est tout le peuple d'Israël qui est rassemblé, les enfants aussi. Et même dans les moments de prière, dans les moments de jeûne et de prière, dans les moments de combat spirituel, il y a les enfants. Et Paul s'adresse aussi aux enfants. Il s'adresse à l'Église et il s'adresse aux enfants de l'Église. Aveuglé par l'amour, aveuglé par les sentiments et aveuglé par ses convoitises. On est bientôt dans la période d'été, ça y est, on est en été. C'est l'été, ça peut être un temps de repos, ça peut être un temps de restauration, de mise à part, d'être tranquille, de pouvoir lire des livres qu'on n'a pas le temps de lire d'habitude, d'approfondir nos connaissances, de partager des moments avec les siens, de reprendre des forces. Mais ça peut être un moment aussi de relâchement. Ça peut être un moment de convoitise. Ça peut être un moment où on est sollicité de part et d'autre, dans des soirées, dans les festivités. Il y en a un qui a été aveuglé par tout cela, qui a été aveuglé par la gloire et par l'argent. Je veux parler de ce voyant, de cet homme qui est qualifié comme voyant dans le livre des Nombres, au chapitre 22, c'est Balaam. Un certain Balak, ennemi d'Israël, va venir vers Balaam et va lui demander de maudire Israël. Il va lui dire au verset 17, « Je te couvrirai de gloire et d'honneur. » Fais-le, je te couvrirai de gloire et d'honneur. Tu seras riche. Le résultat, c'est qu'il sait qu'il ne doit pas y aller, mais il va y aller quand même, aveuglé par les richesses. Il va aller dans une mauvaise voie. Je bénis Dieu pour une expérience que vient de vivre un jeune durant un camp. Je ne pourrais pas citer son nom, pas expliquer vraiment ce que c'était. Mais il a eu un choix à faire dans sa vie. Et son patron lui a proposé un très très bon poste, un très très bon salaire, quelque chose qui ne se refuse pas, comme il le disait, comme le patron lui disait, c'est une opportunité immanquable dans une vie. Le seul problème, c'est qu'il devait travailler du jeudi au dimanche. Le seul problème. Ça ne vous pose pas de problème, vous. Et là, il a eu un choix à faire dans son cœur. Et peut-être qu'il aurait pu se laisser aveugler par l'avancement de carrière, par l'argent, par l'opportunité. Mais il a choisi de refuser ce travail. Il a dit non, le samedi et le dimanche, c'est trop important pour moi. C'est trop important pour mon âme, c'est trop important pour ma vie. Je sers le Seigneur dans mon église. J'ai besoin de l'église, j'ai besoin des cultes. Alors le patron s'est vexé. Il l'avait formé pendant un an aux États-Unis. Quelque chose qui est difficile à refuser. Alors ce jeune a été encouragé à travers une parole, à travers un témoignage. C'est pourquoi il m'a rapporté cela. Et c'était juste 2 jours avant de venir dans ce camp que ça s'est passé. Et je lui ai dit avec certitude que Dieu allait le bénir, que Dieu allait au-delà encore de ça. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Balaam va s'enfoncer dans cette voie et vous connaissez l'histoire et il est sur son ânesse et lui ne voit rien mais son ânesse voit que l'ange de l'Éternel, que la route est barrée, que ce n'est pas la volonté de Dieu. Lui ne le voit pas. Il le sait, mais il ne le voit plus. Il est aveuglé par les richesses. par la gloire. Il va falloir que Dieu lui ouvre les yeux. Et pourtant, il va continuer. Combien de fois, nous aussi, on voit moins la volonté de Dieu, on voit moins la voie à suivre. On a besoin de voir la bonne direction. Parfois, on va dans une mauvaise direction et c'est comme si on était aveugle, on ne voit rien. On ne voit même pas qu'on va tout droit dans le trou, on va tout droit dans une impasse. On va tout droit dans la gueule du diable. On va vers une voie qui n'est pas bonne. La finalité de cette histoire, c'est que Dieu va lui ouvrir les yeux. Et quand Dieu va ouvrir les yeux, au lieu de maudire, il va bénir. Et qu'est-ce qu'il va voir ? C'est la bénédiction d'Israël. La bénédiction de son peuple. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Amen. Un collier pour oindre tes yeux. Dieu voudrait que nous nettoyons nos yeux spirituels, pour que nous voyions tout distinctement. Il y a un autre passage pour terminer, parce que Dieu veut nous ouvrir les yeux quant au danger, et Dieu veut nous ouvrir les yeux aussi sur sa nature, sur sa puissance, sur sa gloire qui est là, tout à côté de nous. Et on ne le voit pas. On ne le voit pas assez. Sinon, on serait plus confiant. Amen. Dans le deuxième livre des Rois, il y a cette histoire avec Élisée et Géasi qui vont se retrouver avec des ennemis tout autour d'eux. Élisée va dire à Géasi: « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit: « L'Éternel, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Est-ce que vous voyez ces chars et ces chevaux qui sont tout autour de vous dans votre épreuve, dans votre combat? Est-ce que vous voyez l'armée puissante de Dieu qui est à vos côtés? Est-ce que vous voyez Jésus qui est là? Voir flou, c'est voir les choses comme elles ne sont pas. Je vois, mais je vois des arbres. Je ne vois pas des gens, je vois des arbres. Dieu veut que tu vois distinctement, que tu vois clair sur ta relation amoureuse, que tu vois clair sur tes jugements, que tu vois clair sur le chemin que tu es en train de prendre. Il ne veut pas que tu voies flou, parce que tu ne vas pas voir les choses comme elles sont vraiment. Tu vas les voir différentes, et ce n'est pas ça. Mais il veut que tu vois vraiment les choses comme lui les voit. Alors venons à Jésus ce matin, viens à Jésus, parce que lui seul est capable de te guérir de ta cécité spirituelle. Sa parole agira comme un antiseptique, une eau qui purifie et qui t'aidera à voir clair. On va baisser la tête un instant, on va prier. On va demander à Dieu, comme l'a fait Élisée pour Géasi, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Peut-être qu'au milieu de nous, nous sommes atteints ce matin d'une certaine maladie spirituelle, au niveau des yeux de notre cœur, au niveau de notre foi. Et nous avons besoin d'un attouchement divin. Nous avons besoin que Jésus vienne, nous touche les yeux et que nous voyons clairement les choses comme elles sont, en comptant sur sa grâce, sa miséricorde. Dieu est venu sur cette terre pour te guérir. Dieu est venu sur cette terre pour que tu voies, pour que tu reprennes le combat. Dieu est venu sur cette terre pour que tu marches dans la bonne direction. Dieu est venu sur cette terre pour que tu sois complètement guéri. Un collier pour oindre tes yeux. C'est la parole de Dieu qui purifie. C'est l'eau de la parole que tu as besoin pour guérir ton âme et pour que tes yeux soient toujours clairs, pour que tu vois toujours clair. Il n'y a pas de secret, nous l'avons entendu dans ce don spirituel. C'est le plan, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est notre guide, c'est notre lumière, c'est ce qui va nous éclairer. Seigneur, merci pour ta parole. Que cette parole soit toujours attachée à nous, Seigneur, attachée à nos cœurs, afin que nous puissions voir les choses telles qu'elles sont, que nous puissions discerner, que nous puissions voir le danger de loin, que nous puissions voir les choses comme toi tu les vois, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour certains au milieu de nous ce matin, pour que tu leur rendes la vue sur le péché, sur le mal, sur les mauvaises choses qui font la guerre à notre âme, sur les convoitises, sur les richesses, sur l'amour, sur les sentiments. Que, Seigneur, tu nous donnes ta vue à toi, que tu nous donnes ton discernement, Seigneur. Que tu nous amènes plus loin à cela, Seigneur. Seigneur, viens nettoyer ce matin nos yeux spirituels, afin que nous puissions te voir dans ta gloire, nous puissions te voir dans ta majesté, afin que nous puissions te voir tel que tu es, tout puissant. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.